Bible de l'humanité, deuxième partie, chapitre 1, l'Égypte, la mort. Le plus grand monument de la mort sur ce globe est certainement l'Égypte. Nul peuple n'a fait ici-bas un si persévérant effort pour garder la mémoire de ceux qui ne sont plus, pour leur continuer une vie immortelle d'honneur, de souvenirs, de culte. La contrée tout entière, dans la longueur de la vallée du Nil, est un grand livre mortuaire indéfiniment déroulé comme on faisait des manuscrits anciens. Pas une pierre qui ne soit écrite, historiée de figures, de symboles, de caractères énigmatiques, des tombes à droite, à gauche, des temples qui semblent des tombeaux. Rien de plus imposant pour nous que cette longue rue funéraire. Tout autre est l'impression pour l'Africain. Le Nil est la joie de l'Afrique, sa fête et son sourire. Ce grand fleuve de vie qui, des monts inconnus, apporte chaque année un tribut si fidèle, est l'idole, le fétiche du monde noir. Dès qu'il le voit de loin, il rit, il chante, adore. Pour ce monde de soif, l'idée fixe, c'est l'eau. Du grand désert des sables de Libye, ou des affreuses chaînes granitiques qui sont vers la mer Rouge et le désert de Sinaï, quel est le vœu, la prière, le soupir, une goutte d'eau. Je ne sais quel suintement sous un palmier, on l'appelle emphatiquement un oasis, on y court et on le bénit. Quel dut être l'amour pour le grand oasis, l'Égypte? Tu demandais de l'eau, en voici une mer, une immense nappe d'eau où la terre disparaît, abreuvée, noyée, détrempée. Vers le nord, ce n'est que limon. Or, c'est justement ce limon, ce delta trempé d'eau qui est le paradis d'Afrique. Tous voudraient vivre là. Tous voulaient en jouir au moins après la mort. On y portait les corps en barque, on y entassait les tombeaux. Cette basse Égypte, luxuriante de production, est le triomphe de la vie, comme une orgie de la nature. Voilà donc deux aspects bien opposés de la contrée. Notre Europe l'admire par l'aspect mortuaire. L'Afrique et le Midi pour son fleuve, pour ses réjouissances d'eau, d'alimentation. On la rêverait volontiers comme un immense sphinx femelle de la longueur du Nil, une nourrice colossale en deuil, qui montre sa belle face, noble et lugubre, au monde blanc, tandis que, devant sa mamelle, sa riche croupe, le noir est à genoux. C'est le premier regard. Et au second, l'impression n'est pas moins grande. Nulle part le drame de l'année, dans l'accord solennel du ciel et de la terre, ne frappe davantage. Le Nil pontificalement n'a jour fixe, descend et roule, s'épand, rafraîchit et féconde. Il se retire à peine que l'homme, tout aussi régulier, sans perdre de temps, mesure, rétablit tout, laboure et sème, accomplit le cercle agricole. Tandis que, d'en haut, le soleil, tout-puissant bienfaiteur, non moins exactement, vivifie, anime et bénit. Vie de travail immense. Mais plus immense encore fut le travail conservateur, l'effort contre la mort, la persévérance admirable à garder malgré elle tout ce qu'on pouvait de la vie. La famille se montre là par ce qu'elle a de plus touchant. Exemple unique. Un peuple entier, pendant plusieurs milliers d'années, n'a eu absolument en vue que d'assurer aux siens la seconde vie du sépulcre. On ne peut, sans émotion, songer par quelles privations les plus pauvres achetaient cela. Chaque tombe est pour deux, pour l'époux et l'épouse. C'était leur but commun. Lui, par travail mortel, elle, par mortelle économie, il gagnait, il cachait le petit trésor nécessaire, de quoi être embaumés ensemble, ensemble dormir sous la pierre, pour ensemble ressusciter. Le contraste est très beau. L'Égypte est admirable et par la mort et par la vie. Toutes deux, elles contribuent d'autant dans cette grandeur. C'est une contrée de nature harmonique et tout naïvement un système. tout autour rien de comparable. La grande Carthage, par exemple, son empire monstre dispersé en fragments, n'a rien de pareil. Pas davantage la Syrie. Elle a deux faces comme l'Égypte, mais nullement harmonisée. Tout au contraire, l'Égypte, en ses institutions et dans ses caractères divers d'art aussi bien que de nature, fut une, parfaitement fondue et par la douceur naturelle de son profond esprit de paix, et par le temps aussi, par l'énorme durée. Elle participait à la majesté du tombeau. Tous venaient honorer en elle la grande maîtresse de la mort. Tous, la Grèce elle-même, se mettaient à l'école, interrogeaient les prêtres égyptiens. Leurs énigmes et leurs symbolismes, leur purification, leurs grandes fêtes, leur jugement continuel des morts, les constantes lamentations des pleureuses et pleureurs, car les hommes pleuraient aussi aux funérailles. Tout cela imposait, touchait. Malgré soi-même, on imitait, non pas le tout, mais tel ou tel détail, et souvent maladroitement. La Phénicie, opposée de nature, la Judée de haine profonde, en prirent pourtant des pièces, et les chrétiens après les juifs. En maudissant l'Égypte, ils la suivirent, ils la suivent encore. Dans les idées, les rites, les fêtes et le calendrier, les dogmes funéraires, le grand dogme de la mort de Dieu. Ils vont avec tant d'autres peuples derrière sa barque sépulcrale et dans son sillage éternel. Champollion a dit très bien « L'Égypte est toute d'Afrique et non d'Asie ». C'est ce que les monuments officiels, dans leur gravité monotone, ne disent pas. Ce que le panthéon sacerdotal, dans ses doctrines ténébreuses, ne dit pas non plus clairement. Mais la religion populaire le fait toucher du doigt. Elle est toute africaine, sans mystère, en pleine lumière, toute d'amour, d'amoureuse bonté, de bonté sensuelle. Qui faire ? C'est nature, c'est la mère à tous, vénérable autant que touchante. Quoi qu'elle fasse, amour et respect. Ce pauvre peuple, dans sa vie de labeur, entre ce climat monotone, une culture toujours la même, une pesante énigme de dogme, d'écriture incomprise, eût succombé 100 fois sans le bon génie de l'Afrique, la divine femelle, tendre mère et fidèle épouse, son Isis. En elle, il vécut. Si la bonté existe sur la terre, c'est dans ses races. Leur type éloigné du lourd profil du nègre et non moins différent du sexe arabe ou juif, ont une extrême douceur. La famille est très tendre et pour l'étranger même, l'accueil bon, sympathique. L'Égypte connut peu les sacrifices humains. Chaque année, il est vrai, on jetait une fille au Nil, mais une fille d'osier. Point de sérail et point de nu. Point d'amour excentrique ni de mutilation d'enfants, comme en Éthiopie, en Syrie et partout. La monogamie générale est libre, volontaire, on pouvait avoir plusieurs femmes. L'épouse avait grand ascendant et le gardait. Sur le Haut Nil, elle a ce privilège singulier de ne pas vieillir. Elle conserve les belles formes qu'on admire dans les monuments, ce sein très plein, mais droit, ferme, élastique. Il pointe, comme aux peintures sacrées, d'une virginité éternelle, dresse immuablement la coupe de l'immortalité. Les rois d'Asie, qui avaient souvent, voyaient le Xerxès d'Hérodote, un sens profond de la nature, préféraient l'Égyptienne à toutes les femmes, la demandaient au pharaon. Ils l'aimaient mieux que la servile asiatique ou ce fier demi-mâle qu'on appelle femme en Europe. Il la croyait ardente, capable et cependant docile, surtout la plus riche en bonté, celle enfin qui rendrait le plus par l'amour et l'obéissance. En Égypte, la femme régnait. Elle pouvait monter sur le trône et elle était reine dans chaque maison. Elle faisait toutes les affaires. L'homme reconnaissait son génie, ne sortait pas du travail, labourait ou tissait. Diodore va jusqu'à dire que le mari jurait d'obéir à la femme. Sans son gouvernement habile, il n'aurait jamais pu arriver à ce but difficile aux pauvres, l'embaumement commun, l'union du repos éternel. L'Égypte délirait de son Isis et ne voyait rien qu'elle. Non seulement elle l'adorait comme femme, jouissance, bonheur et bonté, mais tout ce qu'il avait de bon, c'était Isis, l'eau désirée, la rivière, la bonne femelle liquide. Nil était féminin, ne se distinguait pas d'Isis. La terre féconde aussi qu'apporte l'eau, l'Égypte même. La bonne vache nourricière était aimée de la déesse au point qu'elle en prenait les cornes pour parure. Cornes ou croissant lunaire. Isis était la blanche lune qui vient si bien le soir après tant de soleil qui rend au laboureur le repos et la femme aimée. La lune, douce compagne qui règle les devoirs, qui mesure le travail à l'homme, à la femme l'amour, en marque les retours, l'époque et la crise sacrée. Cette reine du cœur, le bon génie d'Afrique, sans mystère, trônait comme femme, naïvement parée de ses belles mamelles, de tous les attributs de la fécondation. Elle porte le lotus à son sceptre, le pistil de la fleur d'amour. Elle porte royalement sur la tête, en guise de diadème, l'avide oiseau, le vautour qui ne dit jamais assez, le vautour signe de la mort, sévère entremetteuse, qui impose l'amour, le renouvellement maternel. L'insigne de la vache mère qui, dans cette coiffure étrange, se dresse par-dessus le vautour, dit assez ce que veut l'amour, refaire incessamment la vie. La fécondité bienfaisante, l'infinie bonté maternelle, voilà ce qui fait l'innocence de ces âpres ardeurs d'Afrique. Tout à l'heure, l'amour et le deuil et l'éternité du regret vont trop les sanctifier. Dans la mer universelle, Isis à tort ou la nuit, fut reconçue avant tous les temps une fille, un fils, Isis Osiris, qui, étant deux, n'était qu'un. Car déjà il s'aimait tant dans le sein maternel qu'Isis en devint féconde. Même avant d'être, elle était mère. Elle eut un fils qu'on nomme Horus, qui n'est autre que son père, un autre Osiris de bonté, de beauté, de lumière. Donc, ils naquirent trois, mère, père, fils, de même âge, de même cœur. Quelle joie! Les voilà sur l'autel, la femme, l'homme et l'enfant. Notez que ce sont des personnes, des êtres vivants, ceux-ci. Non la trinité fantastique où l'Inde fait l'hymen discordant de trois anciennes religions, non la trinité scolastique où Byzance a subtilement raisonné sa métaphysique. Ici, c'est la vie, rien de plus. Du jet brûlant de la nature sort la triple unité humaine. Nul mythe n'eut une telle force de positif, de vérité. La mère n'est pas une vierge, comme celle de Bouddha, de Gengis, tant d'autres. C'est bien une femme, une vraie femme, pleine d'amour, le sein plein de lait. Osiris est un vrai mari dont on ne peut se moquer, mari réel et actif, de génération assidue, si amoureux de son Isis que cet amour surabondant féconde toute la nature. Et le fils est un vrai fils, tellement semblable à son père qu'il témoigne solennellement de l'union des parents. Il est la vivante gloire de l'amour et du mariage. Et comme tout est fort et vrai, hors du faux, de l'équivoque, le résultat est fort aussi, positif. L'Osiris humain religieusement se conforme à celui d'en haut, travaillant son Isis, l'Égypte, fécondant la femme et la terre, engendrant incessamment du travail les fruits et les arts. Ces dieux n'ont pas l'impersonnel, l'obscurité, la terreur de certaines religions d'Asie. Ils sont vénérables et touchants, n'effraient pas. Le Siva indien, s'il n'avait soin de fermer l'œil, pourrait brûler tout par mégarde de son dévorant regard. Ici, c'est la nature humaine elle-même qui est sur l'autel, dans son doux aspect de famille, bénissant la création d'un œil maternel. Le grand Dieu, c'est une mère. Combien me voilà rassuré. J'avais peur que le monde noir, trop dominé de la bête, saisi dans son enfantement des terrifiantes images du lion et du crocodile, ne fît jamais que des monstres. Mais le voilà attendri, humanisé. L'amoureuse Afrique, de son profond désir, a suscité l'objet le plus touchant des religions de la terre. Quelle ? La réalité vivante, une bonne et féconde femme. La joie éclate, immense et populaire, toute naïve, une joie d'Afrique altérée. C'est l'eau, un déluge d'eau, une mer prodigieuse d'eau douce qui vient de je ne sais où, mais qui comble cette terre, la noix de bonheur, s'infiltrant, s'insinuant dans ses moindres veines, en sorte que pas un grain de sable n'ait à se plaindre d'être à sec. Les petits ruisseaux desséchés sourient à mesure que l'eau gazouillante les visite et les rafraîchit. La plante rit de tout son cœur quand cette onde salutaire mouille le cheveu de sa racine, assiège le pied, monte à la feuille, incline la tige qui mollit, gémit doucement. Spectacle charmant, chaîne immense d'amour et de volupté pure. Tout cela, c'est la grande Isis, inondée de son bien-aimé. Mais rien ne dure. Comment le méconnaître ? Tout meurt. Le père de la vie, le Nil, tarit, se dessèche. Le soleil, à tel moment, est là. Le voilà défait, pâli. Il a perdu ses rayons. Le vivant soleil de bonté qui sema au sein d'Isis son fruit, toute chose salutaire, il a pu tout créer de lui, sauf le temps, sauf la durée. Un matin, il disparaît. Il a été immolé par son cruel frère Typhon, qui l'a divisé par le fer, l'a démembré, l'a dispersé. L'honneur de l'homme, son orgueil et sa force, sa virilité ont été durement tranchés. Où sont ces pauvres débris ? Partout, sur la terre, dans les flots, la mer outrageuse emporte jusqu'en Phénicie. Ici nous sortons des fables. C'est la vive réalité, un souvenir très poignant des mutilations qui se faisaient et se font pour préparer au marché de fausses femmes, jeunes eunuques qu'on vendait au sérail d'Orient. Le centre de cette vente fut longtemps la Phénicie. Isis s'arrache les cheveux, va cherchant son Osiris. Cette douleur africaine, la plus naïve du monde, abandonnée, sans orgueil, confie à toute la nature le cruel tourment de la veuve, son regret, son cuisant désir, la désolante impuissance où elle est de vivre sans lui. Elle trouve enfin de ses membres que les flots ont emportés. Elle va pour les ravoir jusqu'en Syrie, à Byblos, obtient qu'on lui restitue ce qui reste des débris. Un seul manque, profond désespoir. Hélas, celui-ci, c'est la vie, puissance sacrée d'amour. Si vous manquez, qu'est-ce du monde ? Où vous retrouvez maintenant ? Elle implore le Nil et l'Égypte. L'Égypte n'a garde de rendre ce qui sera pour elle le gage d'une fécondité éternelle. Mais une si grande douleur méritait bien un miracle. Dans ce violent combat de la tendresse et de la mort, Osiris, tout démembré qu'il est et si cruellement mutilé, d'une volonté puissante, ressuscite, revient à elle. Et si grand est l'amour du mort que, par la force du cœur, il retrouve un dernier désir. Il n'est revenu du tombeau que pour la rendre mère encore. Oh, combien avidement elle reçoit cet embrassement. Hélas, ce n'est plus qu'un adieu, et le sein ardent d'Isis ne réchauffera pas ce germe glacé. N'importe, le fruit qui en est, triste et pâle, n'en dit pas moins la suprême victoire de l'amour qui, fécond avant la vie, l'est après la vie encore. Les commentaires qu'on fait sur cette légende si simple lui prêtent un sens profond de symbolisme astronomique. et certainement de bonheur, ont senti la coïncidence de la destinée de l'homme avec le cours de l'année, la défaillance du soleil, etc., etc. Mais tout cela est secondaire. Observez plus tard, ajoutez, l'origine première est humaine, c'est la très réelle blessure de la pauvre veuve d'Égypte et ses inconsolables plaies. D'autre part, que la couleur africaine et matérielle ne vous fasse pas illusion, il y a bien ici autre chose que le regret des joies physiques et le désir inassouvi. La nature, à cette souffrance, sans doute avait de quoi répondre. Mais Isis ne veut pas un mâle, elle veut celui qu'elle aime, le sien, et non pas un autre, le même et toujours le même. Sentiment tout exclusif et tout individuel, on le voit aux soins infinis qui se prend de la dépouille pour qu'un seul atome n'y manque, pour que la mort n'y change rien et puisse un jour restituer dans son intégralité cet unique objet d'amour. Dans cette légende si tendre, toute bonne et toute naïve, il y a une saveur étonnante d'immortalité qui ne fut dépassée jamais. Ayez espoir, cœurs affligés, tristes veuves, petits orphelins, vous pleurez, mais Isis pleure, et elle ne désespère pas. Osiris, mort, n'en vit pas moins. Il est ici, se renouvelle dans son innocent Api. Il est là-bas, pasteur des âmes, débonnaire gardien du monde des ombres, et votre mort est près de lui. Ne craignez rien, il est bien là. Il va revenir un jour pour redemander son corps. Enveloppons-la avec soin cette précieuse dépouille. Embaumons-la de parfums, de prières, de brûlantes larmes. Conservons-la bien près de nous. Ô beau jour où le Père des âmes, sorti du royaume sombre, vous rendra l'âme chérie, la rejoindra à son corps et dira « Je vous l'ai gardée ». Jusqu'ici, tout est nature. Une belle tradition populaire y ajoutait un excès incroyable de bonté. On disait qu'Isis, en cette course lugubre où elle allait recherchant les membres de son époux, trouva par terre je ne sais quoi de noir, de sanglant, d'informe, un petit monstre nouveau-né. À la couleur, elle connut que c'était un rejeton du noir typhon, son ennemi, son bourreau, le féroce meurtrier. L'enfant n'était Anubis, cette figure d'enterreur à tête de chien ou de chacal qu'on voit sur les monuments. Mais l'adorable déesse, devant la faible créature qui pleurait ou qui jappait, ne sentit que la pitié. Contre l'amour et la douleur, plus forte fut la bonté. Elle la releva de terre et la prit entre ses bras. Elle pouvait la faire nourrir et l'élever par une autre. Mais Isis est la tendresse, la miséricorde même. Elle ne put rien faire à demi. Elle serra l'odieux nourrisson contre son sein, contre ce cœur si profondément déchiré, lui sourit tout en pleurant et, magnanimement, finit par le mettre à sa mamelle. Spectacle vraiment divin, vienne ici toute la terre. La veuve de l'assassiné nourrit le fils de l'assassin. Abreuvée du lait de bonté, arrosée des larmes d'amour, le monstre devient un dieu. C'est ce que la pensée de l'homme a jamais trouvé de plus tendre. Je ne vois dans les mythes indiens ou chrétiens rien de comparable. Celui de l'Égypte innocente, la race que le Moyen-Âge eut cru damnée, diabolique, il établit que le crime n'est pas transmissible, que l'enfant du criminel, tout noir encore de son père, n'en est pas moins digne de la compassion céleste, que la divine bonté le laissera se relever, monter, monter jusqu'à Dieu. Le résultat est beau. Ce noir enfant, ce fils du crime, qui appartient à la mort par sa naissance et par sa nourrice à la vie, devient le génie du passage, le bon génie interprète des deux mondes. Il comprend tout, sait tout mystère, crée tout art. C'est lui qui fixe la mémoire où seront gardées, consacrées nos générations passagères. Il formule, calcule l'année. il invente l'écriture qui, à tel an, à tel mois, consignera le souvenir. Son art donne à notre dépouille la fixité qui nous permet d'attendre dans nos bandelettes le jour de la résurrection. Mais la suprême fonction d'Anubis, son plus haut bienfait, c'est, au moment où la pauvre âme sort d'ici, de la recueillir, de la rassurer, la conduire. Elle entre, triste oiseau égaré, dans un étrange pays, si nouveau. Dort-elle ? Veille-t-elle ? Cela est très bien exprimé dans le magnifique exemplaire du Livre des Morts, sur une des cheminées du Louvre. L'âme, intéressant jeune homme, ne sait trop ce qu'elle doit faire. Mais elle est en bonne main. Le cher Anubis lui touche le cœur et le lui raffermit. « Que crains-tu ? Je réponds de toi, n'aie pas peur du jugement. Si moi, le noir fils de Typhon, j'ai passé, toi, innocent, candide dans ta robe blanche, tu n'as que faire de t'alarmer. Viens, le bon Osiris t'attend. » Pendant que j'écrivais ces choses, je parcourais les planches de la grande description, celle de Champollion, de Rosellini et de Lepsius. Le cœur plein de ces mythes sublimes, je recherchais curieusement, pour les mettre en regard, des images de réalité. Une planche m'arrêta, me donna à penser. C'est celle où le métayer, à la tête de ses bestiaux, vient rendre compte à un scribe qui note le nombre, marque si le troupeau a cru ou diminué. Le bonhomme, jeune encore, se semble, imberbe comme tout Égyptien, croise les bras sur la poitrine dans l'attitude d'un respect religieux. Ce scribe, nullement imposant, est l'homme du roi ou des prêtres. On sait par la belle histoire de Joseph que toute la terre d'Égypte était au roi, sauf un tiers qui, selon Diodore, était au prêtre. La propriété en Égypte ne fut jamais guère que fermage. Des pharaons aux Ptolémées, aux sultans, aux beys, le souverain faisait cultiver par qui il voulait, libre à lui de faire payer à chaque génération, d'obliger le fils à racheter le fermage qu'avait eu son père. On sait les résultats d'un tel système. C'est ce qui a fait la constante misère du pays le plus riche du monde. La famille, à la mort du père, ne savait quel était son sort. Au moment où les embaumeurs entraient, le scalpel à la main, le fils, la mère, fuyaient en pleurs, livraient le corps et la maison. Le lendemain, autre exécution. Le scribe, du roi, du prêtre, entrait à son tour, la plume à la main, relevait le nombre des bêtes, estimait si la famille avait augmenté le troupeau et méritait d'être continuée. C'est, je crois, une scène de ce genre que représente la planche en question. Au pied du scribe est prosternée une figure, si bas qu'elle semble terrifiée, prier et supplier. Est-ce la femme, la mère du fermier ? La pauvre famille à la fois subissait deux jugements. Les vivants pourraient-ils garder le fermage ? Le mort serait-il jugé digne d'entrer dans la sépulture sacrée ? Le prêtre en jugeait seul. Énorme privilège qui, chez des gens si tendres aux affections de famille, le mettait en possession d'une terreur illimitée. Des corvées accablantes les enlevaient sans cesse. Tout se faisait à force d'hommes. Ramsès en employa 120 000 à la fois pour dresser un des obélisques de Thèbes. Pour attaquer, piquer le basalte, le granit, le porphyre, avec l'outil grossier d'alors, combien d'hommes et combien de siècles fallait-il ? Tel prix jeune, à peine marié, consumait là sa vie, ne rentrait que courbé par l'âge. Oh, que de vies humaines, de chagrins et de larmes dans l'entassement des pyramides, ces vraies montagnes de douleurs, dans les énormes nécropoles des basses terres du côté libyque,
Et que de désespoir dans les percements souterrains des chaînes du côté arabique, dans ces rocs durs qu'un travail éternel changeait en ruches funéraires. Des milliers de vivants, pour creuser ces demeures des morts, ont vécu à la lampe, morts eux-mêmes pour ainsi dire, n'ayant de jour, de ciel qu'aux voûtes enfumées du sépulcre. Les caractères sacrés étaient connus des prêtres seuls, et ignorés du peuple, de ces masses nombreuses qui usaient leurs années à les graver dans le granit. On sait toute la complication des trois écritures égyptiennes. Ici, c'est symbolisme, là c'est tachygraphie, ailleurs alphabet ordinaire. Telle figure que je vois, est-ce un homme, une idée, est-ce un mot, une lettre? Énigme fatigante que ne débrouillait pas aisément à coup sûr la tête de ce piqueur de pierre. L'eût-il pu lire, cette terrible écriture? En eût-il percé le mystère sous son obscurité? Qu'eût-il trouvé? Le sens obscur lui-même de la religion sacerdotale, les doctrines absconses de l'émanation par laquelle les dieux issus les uns des autres, rentrant aisément l'un dans l'autre, se mêlent et se confondent, tout à fait comme au noir conduit qu'on a percé dans ces montagnes, s'enchevêtre et s'embrouille le labyrinthe funéraire. Ni les signes, ni la pensée ne furent intelligibles au peuple. Voilà peut-être le plus dur, c'est que l'Égypte est 10 000 ans durant, 10 000 ans, dit Platon, languie à ce travail énorme, sans avoir eu seulement la consolation de comprendre. La bonne religion populaire, si touchante et si claire, tout Anisis, hélas, où est-elle? Qu'est-elle devenue? Isis se voit encore près des rois dans ses monuments comme conseillère ou protectrice, mais en réalité, l'esprit actif et maître en tout cela, c'est le dieu savant Thoth, forme élevée, raffinée d'Anubis. Par lui, cette religion de bonté, sortie d'un cœur de femme, change et devient système, un système laborieux, chargé de dogmes, de pratiques, une scolastique de prêtres. Pour la femme et pour l'homme, si souvent séparés, la mort est tout l'espoir. Lui, pauvre travailleur, dans la fournaise atroce où le soleil fend la pierre à midi, il prie le soleil même de lui donner, d'un coup libérateur, à jamais le repos avec elle, près d'elle. De son côté, la femme, cultivant seule avec son fils, ne pense à autre chose. Par ses jeûnes, elle amasse le petit pécule de la mort. Si l'on manquait ce but, si cet infortuné était jugé indigne du sépulcre, et elle, condamnée au veuvage éternel, dure pensée qui troublait l'esprit, leur gâtait la mort même. L'âme la meilleure, ne pouvait arriver à une seconde naissance qu'à travers une série laborieuse de transformations. Qu'était-ce donc de l'âme maudite qui s'en allait, seule et sans Dieu, tenter ce terrible voyage? Elle allait, horrible et immonde, changer en truie, bête exécrée des Égyptiens comme des Juifs. Pour lui barrer la route, des monstres fantastiques se présentaient qu'il lui fallait combattre. Et pour comble, elle était sous la verge cruelle de gardiens malfaisants, démons singes, démons léopards. Voilà déjà les ports dont parle l'Évangile, où Jésus envoie les démons. Voilà déjà le Moyen-Âge, le début et les éléments de ces traditions de terreur qui ont si cruellement rétréci, faussé les esprits. L'agonie était effroyable. De même qu'au noir siècle chrétien, 10e, 11e, le mourant croit être transporté par les démons, appelle à lui les saints et se fait couvrir de reliques, l'Égyptien a tellement peur qu'un seul tuteur, Thoth Anubis, ne peut le rassurer. Il craint pour chaque membre et pour chacun réclame l'assistance d'un dieu spécial. Il se fait tenir, non à 4, mais à 15 ou à 20. Un dieu répond du nez et le tient ferme, un autre garantit les dents, tels les yeux, tel le cou. La terreur est si excessive qu'ayant le bras tenu, il fallait tenir encore le coude. Ayant la jambe défendue, il veut un autre Dieu pour sauver le genou. Les âmes ne revenaient pas le jour pour laisser agir les vivants. Mais la nuit, elles se promenaient sur terre, et même les mauvaises âmes. De là, mille peurs, mille visions. Nulle sécurité au foyer. L'innocence des animaux, leur air paisible, suffit parfois pour rassurer. De là, probablement, bien plus que d'autres choses, leur attache excessive à ces bons compagnons. De là, le touchant radotage, le culte des animaux sacrés, les doux amis de l'homme qui le gardaient dans la vie, dans la mort. Où finit l'animal? Où commence la plante? Qui le dira? Les sensitives, en père le remarque, sous ce climat puissant, approchent de l'animalité. Elles ont leur peur, leur répugnance, comme des femmes délicates, fixées dans la fatalité, sans langage, sans moyen de fuir et d'échapper. Les palmiers visiblement aiment. De tout temps, en Égypte, ont servi leurs amours. L'amant séparé de l'amante, par la main secourable de l'homme, s'était rapproché. L'arbre gémit et pleure, et d'une voix tout à fait humaine. Vers 1840, nos Français d'Algérie, qui en coupaient plusieurs, furent surpris, presque épouvantés. Un illustre savant n'était présent et fut troublé, ému comme les autres. Quelle devait être l'impression de ces soupirs de l'arbre, de ces plaintes navrantes sur l'esprit du pauvre fellah ? Comment n'eût-il douté qu'une âme malheureuse comme la sienne ne fût sous l'écorce? L'arbre est rare en Égypte, d'autant plus aimé et chéri. Celui qui avait le bonheur d'en avoir un à sa porte ou voisin vivait de même vie avec lui. Il lui racontait tout, lui confiait ses craintes et ses douleurs, les duretés du scribe ou surveillant, le travail excessif et sans consolation, hélas. Parfois d'autres blessures, cruelles, et de la main aimée. Bref, il lui remettait son cœur en dépôt, le cachait dans l'arbre. Le mimosa qui frémit et sent tout, parfois le recevait ce cœur, parfois le Perseas laurus, arbre d'Isis, arbre admirable. Sa feuille est une langue, son fruit figure un cœur. Mais quelle partie de l'arbre assez discrète pour recevoir ce dépôt délicat? Le tronc, peut-être, car coupé, il gémit, ou peut-être la branche, qui, entre elle et le tronc, peut serrer et cacher, englober maternellement, ou bien, tout simplement, la fleur. Aux boîtes des momies, la fleur peinte s'entr'ouvre, laisse passer une petite tête, une jolie âme de femme. Si telle acacia ferme sa fleur le soir, c'est pour garder le cœur de l'homme. Grand et profond secret, cet arbre égyptien n'est pas comme celui de la Perse, le fier arbre de vie. C'est un arbre inquiet. On peut, pour un bateau, on peut, pour un palais, méchamment le couper de main. Et alors, que devient le cœur? Aussi, à une seule, l'épouse unique et aimée, on en confiait le mystère, lui mettant sa vie dans les mains. Qu'on juge après la mort de l'homme ce que restait cet arbre pour la femme. Combien sacré et combien confident, consulté, écouté aux heures sûres où l'on n'est pas vu. Il succédait. C'était désormais un mari, un amant, un autel, un dieu mort et vivant, souvent trempé de larmes. De telles choses n'arrivent que dans l'amour fidèle, dans la monogamie, le mariage saint, grave et tendre, comme il fut en Égypte. L'arbre ne manquait pas d'être touché et de répondre. Souvent, la femme vit à travers ses pleurs qu'il pleurait. Des pleurs à sa manière, sans doute, pleurs végétales, de pins et de tant d'autres arbres. Était-ce compassion d'amis? Était-ce l'âme même du mort, prisonnière sous l'écorce, serrée, souffrante, qui, pour se révéler dans ce pauvre langage, lui pleurait ce mot « J'aime encore ». Cette touchante croyance qui devait faire le tour du monde à son type premier le plus pur, en Égypte. La barque sépulcrale d'Isis, cherchant son Osiris, aborde en Syrie, à Byblos. Je ne sais quoi au fond du cœur lui dit qu'il s'est arrêté là, qu'il est dans le palais du roi. Pour s'y faire recevoir, elle s'humilie, cette reine, elle se donne comme esclave, elle observe, voit tout. Le somptueux palais, soutenu de colonnes, en a une, miracle, qui pleure. La colonne est un arbre, un pin. Isis n'en doute point, c'est lui. Elle devine la métamorphose. Il a flotté jusqu'à la côte, jusqu'aux Pinnadas de Syrie, et, dans le sable enfoui, il s'est fait pain lui-même. Placé dans le palais, toujours il se souvient, il pleure. Isis le tire de là, l'embrasse et l'inonde de larmes, lui rend les honneurs funéraires.